Je disais donc que les femmes qui sont assassinées à New York, même si on les aime, comme vous l'entendez, eh bien, c'est quand même leur mari et leur petite amie qui les assassinent le plus souvent. Et non pas, elles ne sont pas victimes d'agressions commises sur, par des inconnus à la suite de vols, de querelles, de violences sexuelles ou toute autre violence liée à la drogue et autres crimes dont on connaît bien sûr en général le mobile, à savoir surtout l'argent. Cette conclusion que les experts en droit pénal et en violence familiale soupçonnaient bien évidemment depuis longtemps, on en a eu la preuve hélas souvent, eh bien a été confirmée par une étude portant sur l'ensemble des femmes tuées à New York sur une période de 5 ans. Une recherche des premières du genre qui a été effectuée aux États-Unis. Pour dresser le portrait robot des victimes, eh bien, les enquêteurs du département de la santé de la municipalité de New York ont pendant 9 mois passé au crible tous les documents auxquels ils avaient accès, que ce soit rapport d'autopsie et balistique, description des lieux du crime, des coups de couteau et des marques de strangulation, témoignages, examens toxicologiques, tests effectués dans les affaires de viol. Eh bien, ils ont étudié les dossiers de chacune des 1156 femmes âgées de 16 ans et plus tuées à New York entre 1990 et 1994. Et dans 480 cas seulement, les enquêteurs pouvaient déterminer le lien entre le meurtrier et sa victime. Dans ce groupe restreint, il s'avère que la moitié des femmes avaient été assassinées par leur mari ou petit ami en date ou ex, soit un taux bien plus élevé que prévu. Et sur le plan national, celui-ci est de 40% contre 6% d'hommes tués par leur conjointe ou leur petite amie. Apparemment, un tiers des femmes assassinées par leur mari tentaient de mettre un terme à leur union dans 25% des cas, que le couple soit le mari ou l'amant. Des enfants ont également tué ou blessé, ont assisté à la scène et ont découvert le corps de leur mère. La différence des hommes qui meurent le plus souvent par balle, à la différence des hommes qui meurent le plus souvent par balle, eh bien les femmes sont généralement battues, brûlées ou jetées par la fenêtre, dit la responsable de l'étude, Susan Wilt, qui est directrice des services d'épidémiologie et de contrôle du programme de prévention et des blessures au département de la santé de New York. Connaître la cause des décès, disent les responsables municipaux, permettra aux hôpitaux et aux forces de police, aux cliniques et aux associations communautaires d'identifier et de protéger les femmes qui courent les plus grands risques. Deux tendances se dégagent nettement de cette étude que les enquêteurs trouvent particulièrement préoccupante, à savoir que les deux tiers de ces violences meurtrières ont lieu dans les quartiers les plus pauvres, à savoir le Bronx et Brooklyn, et que les trois quarts des victimes sont noires ou d'origine hispanique. Ces conclusions vont à l'encontre de la vieille notion selon laquelle la violence domestique ignore les clivages de classe et de race. Selon Jeff Fagan, qui est directeur du Centre de recherche et de prévention de la violence de la Faculté de santé publique de l'Université de Columbia, c'est aussi ce qu'on a entendu récemment dans un même type d'enquête en Suisse romande. Eh bien, dans les années 60, dit-il, le mythe d'une violence domestique hors classe à la vie dure. La vérité, c'est qu'il s'agit d'un problème de pauvreté conjugué à d'autres facteurs, comme le faible taux de mariage, le chômage élevé et les difficultés sociales. Et concernant la prévention, nous avons eu plus de résultats avec les femmes blanches. Il faut donc accroître l'efficacité de notre action en faveur des femmes dans les zones pauvres. Autre élément surprenant, dans près d'un tiers des cas, le mari ou le petit ami tente de se donner la mort après avoir tué la femme. Donc il semblerait que la situation aux États-Unis soit bien particulière et qu'on ne puisse pas reporter les résultats d'une enquête concernant la violence contre les femmes dans le couple en particulier d'un pays à l'autre. Par exemple, la situation suisse avec celle américaine. Et espérons que pas tous les hommes qui aiment une femme s'amusent à la tuer.
Good thing he's found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend if he put her down. When a man loves a woman,
Vous aurez reconnu Percy Sledge qui chante « When a man loves a woman », lorsqu'un homme aime une femme. J'ai deux toutes petites annonces à vous donner, une qui vient d'Australie et l'une, vous devinerez tout de suite d'où elle vient, mais pourquoi pas faire des petites devinettes. Alors, celle de l'Australie, eh bien, elle nous vient de l'Australian Financial Review de Sydney et elle raconte en quelques mots cette petite histoire très jolie. Une septuagénaire a été arrêtée en Moldavie avec une grenade dans son panier à provisions. C'est ce que rapporte l'agence TASS et que rapporte le journal australien. Vous voyez qu'on voyage hein, quand on lit les journaux australiens. Eh bien, cette dame a dit que l'arme devait lui servir en cas d'agression. C'est ce qu'elle a expliqué, en tout cas, à la police. Alors, oui, qu'est-ce qui se passe fort dans son cœur? Vous le saurez tout de suite dans la chanson suivante. Mais juste avant, alors ma petite devinette. Nous ne sommes pas hostiles au progrès, disent-ils. Vous allez deviner qui. Par exemple, nous n'avons rien contre les fusées, mais nous nous opposons à ce qu'un homme et une femme non mariés partagent le même engin spatial. Alors, qui est-ce qui a dit cela? Vous avez trouvé? Bien, je vous donne tout de suite la réponse, mais je parie que vous avez trouvé. Eh bien, c'est un taliban, M. Malvi Rafiullah, qui est dirigeant du ministre de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Et c'est un journal d'Hong Kong qui s'en faisait l'écho. Les battements de mon cœur sont pour toi. Ouais, ça, c'était Gladys Knight qui nous chantait cette chanson de la soul music américaine. Et maintenant, eh bien, nous partons en Inde. En Inde, et oui, puisque là, nous allons tout savoir sur le rôle que joue la télévision dans la libération des femmes. Lorsque la femme du président Shankar Dayal Sharma est sortie, eh bien, parmi les instructions qu'elle donne à ses serviteurs, figure celle de ne surtout pas oublier d'enregistrer la série Swabhiman, qui veut dire amour propre. Comme plus de 75 millions de téléspectatrices, la première dame de l'Inde ne rate jamais son feuilleton culte, écrit par Shobha Adé et diffusé quotidiennement par la chaîne publique Doordarshan. L'hebdomadaire de Hong Kong, qui s'appelle Asian Week, raconte que dans les régions pauvres de l'Inde, les femmes se réunissent par dizaines devant le seul poste de télévision du village. Et avec d'autres séries, donc d'autres feuilletons, Swabhiman, qui a déjà 2 ans, ouvre les esprits dans un pays où la télévision reste souvent le seul moyen d'accès à la modernité. Son cadre est celui d'une saga familiale tournant autour de 2 femmes, la maîtresse et la veuve d'un industriel, engagées toutes les deux dans une lutte sans merci pour un héritage. La maîtresse élève les 2 enfants illégitimes de son ancien amant et estime qu'elle a le droit moral d'avoir une part de sa richesse. C'est une idée bien hasardeuse, explique le journal donc de Hong Kong. C'est une idée bien hasardeuse que de programmer une émission pareille sur la chaîne publique dans un pays aussi conservateur que l'Inde. Mais pourtant, cela ne semble poser aucun problème à la grande majorité des téléspectatrices indiennes. Quelques années auparavant, la série n'aurait jamais marché car le gouvernement n'aurait jamais accepté de prendre des risques en autorisant la diffusion d'un sujet en rapport avec le sexe. Mais depuis la libéralisation de l'économie en 1991, il semble que la télévision ait dû s'adapter aux critères des médias occidentaux et comme la plupart des feuilletons sont diffusés l'après-midi, eh bien, ils sont surtout suivis par les femmes et ce phénomène a révolutionné les aspirations de millions d'entre elles. La tolérance a beaucoup évolué en matière de problèmes tels que le divorce, l'avortement ou les relations extra-conjugales. Et selon Shoba Dey, qui est donc la conceptrice de la série dont nous parlions tout à l'heure, eh bien, en parlant de sa propre série, elle dit qu'elle comporte beaucoup de situations suggestives, mais l'intimité n'est pas dévoilée. Et lorsque donc, cette série Swabimane fut lancée, les gens ne voulaient pas que l'héroïne ait une relation amoureuse. Aujourd'hui, ils acceptent même l'idée qu'elle oublie son amant mort et tombe amoureuse à nouveau. Parce que quand elle dit « les gens ne voulaient pas, mais ils acceptent », c'est que les gens écrivent et peuvent aussi dire comment ils aimeraient que l'histoire continue. Hein, ça, c'est une chose qui existe en Inde et je sais que ça existe aussi au Brésil. Alors, preuve peut-être que la télévision a encore le pouvoir de changer les mœurs. Dans le courrier international de la semaine du 15 au 21 mai, il y a un immense dossier consacré à l'écologie. Écologique nous serons ou nous ne serons pas, le 21e siècle le sera. Et il y a plusieurs articles tirés de journaux anglais, que ce soit le New Scientist, que ce soit The Independent ou The Observer. Et dans tout cet immense dossier, eh bien, nous apprenons que les femmes sont l'avenir de l'écologie. En effet, le leadership des organisations environnementales n'est plus la chasse gardée des hommes, semble-t-il. En tout cas, c'est ce que constate The E-Magazine, un magazine de Londres. Depuis une quinzaine d'années, il observe que les mouvements verts se féminisent, de la base au poste clé. On les retrouve, on retrouve ainsi les femmes à la tête, par exemple, du World Wildlife Fund, donc le WWF ou de Greenpeace, États-Unis. Autre exemple, dans l'association Citizen Clearinghouse for Hazardous Waste, donc l'association des citoyens pour les déchets abandonnés, travaille avec 8000 organisations dans le monde, dont 80% sont dirigées par une femme. L'activisme en matière d'environnement s'en trouve profondément modifié. En général, en une génération, pardon, on est passé des thèmes masculins touchant aux activités de plein air, comme la pêche, la chasse, etc., à des sujets beaucoup plus fondamentaux, comme la santé, le tissu urbain ou la qualité de l'air et de l'eau. Et les femmes ont apporté de nouvelles idées à des vieilles questions, comme celle de la consommation ou du contrôle démographique. Et là où les hommes examinent les problèmes écologiques en fonction de leur ego, leur position sociale et à la lumière de l'économie et de la technologie, les femmes vont, elles, à l'essentiel. Elles pensent à leur famille, elles établissent des liens intuitifs entre les humains et la nature. Et c'est ce qui les rend particulièrement aptes à mener des négociations avec les politiques et les industriels. Il n'en reste pas moins que le machisme a bien sûr la dent dure. Et ainsi, note donc le bimensuel anglais e-magazine, les journalistes citent plus volontiers les hommes pour les chiffres, la politique et les idées, et se tournent vers les femmes pour le côté humain. Le courrier international du 22 au 28 mai, vous pouvez découvrir un dossier sur la révolution islamique en Iran. Et de très nombreux articles concernent les femmes, sont écrits par les femmes ou recueillent des témoignages de femmes. Alors j'avais envie de vous en lire quelques-uns. Le 23 mai dernier, les Iraniens ont voté pour le premier tour des élections présidentielles. Il y avait deux principaux candidats, deux dignitaires religieux bien évidemment, se disputant les suffrages. Il y avait Nateh Nouri, représentant la fidélité au dogme communiste, et Khatami, qui rassemble une opposition hétéroclite de modernistes et d'islamo-socialistes, tout ça est mis entre guillemets, et même des laïcs mis dans l'impossibilité d'apparaître publiquement. Ce dernier a gagné, mais c'est ce qui est surtout intéressant, c'est de constater qu'il y a une campagne assez particulière qui s'est déroulée pour cette campagne électorale. Les débats y étaient extrêmement intenses, houleux et souvent caustiques, et tout ceci rien à voir avec ce qu'on peut s'imaginer habituellement d'un régime totalitaire et en particulier islamiste. Deuxième surprise, ces débats étaient publics, très largement répercutés par une presse qui, semble-t-il, manifeste une richesse et une liberté de ton assez étonnante, toujours pour la même question de cette dictature islamiste. Et puis un cadre de référence qui est la primauté politique, bien sûr, de l'islam, qui n'est jamais remise en cause, mais avec les précautions d'usage, eh bien, il semble que des divergences puissent être énoncées, des critiques sont autorisées. Et immensément bien plus que dans la quasi-totalité des États musulmans, soi-disant non-islamistes. Et dernière surprise, eh bien, la campagne a occulté totalement les ambitions internationales du communisme triomphant. On parle surtout de problèmes internes et le moyen de faire autrement face aux revendications montantes des femmes, des jeunes, rappeurs inclus, je ne sais pas, on va découvrir pourquoi, quelle est la revendication des jeunes rappeurs, et de tous ceux qui dénoncent l'étouffoir de cette société iranienne gangrénée par la corruption. Alors, tout de suite, un article qui nous vient de Téhéran, de la revue Gozaresh, et qui constate la drôle de guerre contre l'immoralité et l'invasion culturelle. quelques photos pour illustrer ce propos. Une jeune femme de Téhéran qui boit ce qui pourrait avoir l'air d'être un Coca-Cola, mais avec une autre étiquette. Et on constate qu'elle brave beaucoup d'interdits. Elle est maquillée, elle a les cheveux qui apparaissent sous son tchador et elle porte des bijoux. Juste en dessous, une autre photo d'une jeune fille qui, elle, est en train de remettre son tchador pour mettre ses cheveux sous le voile. Et ça, c'est effectivement un geste que font des milliers de jeunes femmes chaque jour à l'infini. Et puis, chose étonnante, contre le mur derrière elle, il est écrit « Madonna ». On peut s'imaginer que ce graffiti a quelque chose de révolutionnaire dans une rue de Téhéran. Alors tous les jours, des minibus parcourent les rues de Téhéran pour remplir la quantité de contrevenants aux bonnes mœurs islamiques. C'est-à-dire, qui sont ces contrevenants? C'est principalement les femmes maquillées ou mal couvertes, c'est des jeunes en jeans serrés et c'est des propriétaires d'antennes paraboliques. Alors à Téhéran, il y a deux bâtiments qui créent l'illusion que notre société est assurée contre l'immoralité et l'invasion culturelle. Sur la porte d'entrée du premier, on peut lire... Force de l'ordre de la République islamique, section Grand Téhéran, bureau de lutte contre les immoralités sociales. Sur la porte de l'autre, c'est écrit Ensemble juridique du martyr Godoussi, spécialisé dans la lutte contre l'invasion culturelle. Tous les matins, sauf les jours fériés, plusieurs minibus et autobus y amènent des hommes et des femmes, des vieux et des jeunes, afin que leur dossier d'immoralité et de corruption soit étudié et que le barrage érigé contre l'invasion culturelle devienne plus imperméable encore. Mais cela n'est que la surface des choses. Quand on examine le fond, on constate la grossièreté et les nombreuses irrégularités avec lesquelles ce combat est mené. Certains individus parmi les forces de l'ordre confondent à l'évidence leur devoir de prohibition des péchés et de respect des commandements moraux, c'est-à-dire l'ensemble des devoirs et interdits religieux, avec le gourdin dont ils usent avec tout un chacun. Et pour voir comment ces personnes profitent de leur position, eh bien... Le journaliste de la revue Gozaresh s'est introduit dans les bâtiments dont nous parlions tout à l'heure. Alors, leur témoignage. Il est 16h, le 18 février 1997. Une jeune fille entièrement couverte, habillée d'un foulard strict, d'un pull à col roulé et d'un manteau descendant jusqu'aux chevilles, passé par-dessus un pantalon épais, aide sa mère, pliée en deux par une douleur au rein, à marcher jusqu'au cabinet d'un médecin. Une voiture de patrouille les dépasse et s'arrête à 10 mètres plus loin. Quand la mère et la fille arrivent à sa hauteur, une femme en descend et leur ordonne de monter. La mère, étonnée, demande pourquoi. L'agent montre du doigt la joue de la fille et dit « parce qu'elle est maquillée ». La mère soupire tranquillement et répond « Vous vous trompez, ma fille n'est pas du genre à se maquiller. Ses joues sont naturellement rouges et comme il fait froid, elles le sont plus encore ». Madame l'agent, chargée de la prohibition des péchés et du respect des commandements moraux, se fâche et rétorque violemment « Tu veux dire que je ne comprends pas? C'est toi qui es bête et tu crois que tout le monde est aussi bête que toi. Allez, dans la voiture !» La mère, souffrante, tente alors son carnet de santé, essayant de maîtriser sa colère, elle dit « Respectez, sœur, je suis malade et nous allons voir un médecin, je n'avais pas l'intention d'être impertinente, voici un mouchoir, essayez de nettoyer le visage de ma fille, vous vous rendrez compte qu'elle n'est pas maquillée. » Madame la responsable écarte la main de la malade et réplique « Vous montez ou je dois vous y obliger ?» La jeune fille qui vit pour la première fois une telle expérience perd son sang-froid et se met à pleurer. « Maman, s'il te plaît, fais quelque chose, je ne veux pas y aller, je n'ai rien fait. » Oubliant sa douleur, la mère dit à l'agent « Vous voyez bien que ma fille a peur, pourquoi nous traitez-vous ainsi ?» Madame la responsable crie et menace de plus belle. L'homme qui l'accompagne intervient. Montez un instant. La sœur promet qu'après vous avoir éclairé et guidé, elle vous laissera redescendre. N'est-ce pas, sœur ? La mère entraîne sa fille dans le véhicule qui repart aussitôt vers d'autres rues à la chasse d'autres coupables. Une fille qui accompagne sa famille pour le deuil de son oncle, une sœur et un frère qui traversent la rue avec leur cousine venue en visite de l'étranger. Quand la voiture est pleine, la chasse prend fin. Après un arrêt au poste de police du 13e arrondissement, les suspects sont transférés en minibus au bureau de lutte contre les immoralités sociales et en chemin, un groupe de jeunes qui fait la queue devant le cinéma Azadi, qui veut dire liberté, est également interpellé, probablement pour remplir le bus au maximum. Une foule hétérogène s'y entasse. Quelques femmes et jeunes filles très maquillées essayent de calmer les nouvelles arrivantes. C'est ta première fois, n'aie pas peur, au pire tu vas payer quelques dizaines de milliers de rials. Et après, rien, moi je suis invitée ici une fois par semaine. Selon les règles, le père ou le mari de l'inculpé doit se présenter au centre avec une pièce d'identité qu'il remettra en gage pour que sa femme ou sa fille soit libérée. Quelques jours plus tard, ils devront revenir au centre pour être envoyés au tribunal. Une jeune femme qui, après ses études, a trouvé du travail dans une maison d'édition a été arrêtée à la sortie de son bureau. Peut-être parce que quelques mèches de ses cheveux dépassaient de son foulard, ou bien peut-être parce qu'il fallait absolument remplir le bus, qui sait. Ses parents étaient en voyage, elle a voulu téléphoner à son oncle pour qu'il vienne la chercher, refusé. C'est le père qui devait venir. Et ainsi, elle a passé la nuit au centre d'arrêt puisque son père était en voyage. Alors, les jeans sont interdits, mais on en fabrique et on en importe et on en vend. Bien sûr. Alors, dans l'enceinte du deuxième bâtiment, s'entassent un nombre impressionnant d'antennes paraboliques qui ont été confisquées. Nous y croisons la mère et la fille arrêtées un peu plus tôt. Elles ont l'air fatiguées et inquiètes. La mère, la femme agent, tenant à la main un formulaire où figurent deux listes de délits, est en train de mettre des croix dans des cases. Puis elle couvre les listes de sa main et demande à la mère de signer. Celle-ci déclare qu'elle ne peut pas signer sans savoir de quel délit on l'accuse. Et l'agent prend son air de nouveau le plus menaçant. Signe si tu ne veux pas avoir plus de problèmes. Épuisée, sous pression, la mère obtempère. Deux jours plus tard, les inculpés, accompagnés de leurs parents, patientent devant l'entrée de l'ensemble juridique du martyr Godoussi. Et là, nous apprenons qu'un jeune homme a été inculpé pour port de jeans trop serrés. J'en perds la ligne tellement. Je suis impressionnée. Alors, la mère du jeune homme s'est aussi emportée. Si porter ce genre de pantalon est un délit, alors pourquoi en fabrique-t-on? Pourquoi en importe-t-on? Et pourquoi en vend-on? Regardez autour de vous, on en trouve dans tous les magasins, y compris dans les magasins d'État. Un autre dit, elle a raison. Si ce maquis est interdit, pourquoi les produits esthétiques sont-ils fabriqués ou importés? Arrive le tour de la mère arrêtée avec sa fille. Le juge leur dit, vous êtes accusés de nombreux délits. Il est écrit que votre tête et votre nuque étaient dévoilées, que vous étiez très maquillée. Et vous avez signé. La mère rétorque, si on avait écrit que j'avais tué, j'aurais signé aussi. L'agent a masqué le texte. Rappelez-vous comme il faisait froid il y a deux jours. Vous croyez que j'aurais pu sortir à moitié nue? L'homme est un juge expérimenté et honnête. Il laisse partir la femme en hochant la tête. Vous êtes libre, mais essayez de ne plus passer par ici. Sa fille, passée devant un autre juge, doit payer une amende de 30 000 riyals, soit environ 40 francs suisses. Si les responsables judiciaires et des forces de l'ordre, par le biais des contrôleurs, étudiaient le comportement de leur personnel, ils ne trouveraient que confirmation de ce qui est décrit ici. Devons-nous continuer à mettre en œuvre tant de moyens pour livrer quotidiennement plusieurs quarts de jeunes gens à ces deux centres? N'est-il pas temps plutôt de nous mobiliser pour concevoir des programmes culturels sérieux et intéressants afin que la population de notre pays et surtout sa jeunesse puisse enfin créer les fondements d'une morale nationale et religieuse? Et ces questions, c'est donc le journal de Téhéran qui se les pose.